This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
المحلية من راديو روزانا في باريس.
مادونا راديو جلوبال.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
O Brasil quer se firmar.
Turquia, Fotora, Bulava, Reci.
Rebonsoir à tous et bienvenue un jour dans le monde. Aujourd'hui en Écosse, c'est le référendum sur l'indépendance. Franck Matvon en direct d'Édimbourg tout à l'heure et Jerry Philly, notre confrère de Courrier International, ici même en studio. Nous serons également en Tunisie avec Eric Valmire, avec une femme anglaise qui pédale à fond pour faire bouger le Nouveau Monde. Elle sera au micro de Dominique André. Mais tout de suite, direction New York, où reprennent les discussions sur le nucléaire iranien.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Et pour simplifier sans caricaturer, les Occidentaux veulent être certains que le programme nucléaire iranien est et demeurera civil, qu'il doit et devra donc pouvoir être contrôlé, encadré, faute de quoi les lourdes sanctions économiques continueront à peser sur l'Iran. L'Iran, de son côté, continue à vouloir se doter d'un nucléaire aux dimensions industrielles dont la finalité reste floue, la capacité à savamment entretenir l'ambiguïté, à coopérer plus ou moins, à faire monter et descendre la température étant la règle de cette négociation empoisonnée et qui risque bien de durer encore. Bonsoir François Nicoulot.
Oui, bonsoir.
Ancien ambassadeur de France à Téhéran, tous les paramètres sont sur la table depuis longtemps. Au fond, la position des uns et des autres n'évolue pas ou évolue peu. Est-ce que la diplomatie peut encore faire quelque chose?
En ce moment, ça coince. Manifestement, la négociation coince. Vous savez que le délai fixé à la négociation, c'est le 24 novembre. Si on n'arrive pas, chacun reprend ses billes. Les Occidentaux, enfin, la communauté internationale reprend les sanctions à pleine force. Et l'Iran, lui aussi, est libéré des contraintes qu'il a acceptées pendant la période de la négociation, de ralentir, disons, son programme, de faire tourner un peu moins de centrifugeuses, ces fameuses centrifugeuses qui fabriquent de l'uranium pour des fins civiles, mais aussi, si nécessaire, pour des fins militaires.
Et puis, il y a un rendez-vous qui n'a pas été tenu, qui est un rendez-vous d'information dans la période dans laquelle nous nous trouvons avant cette date butoir. Rendez-vous de transparence, en quelque sorte. L'Iran a masqué ou en tout cas n'a pas transmis aux observateurs internationaux un certain nombre d'informations critiques.
En effet, l'Iran freine un peu des cas de fer sur certaines des exigences de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est chargée d'exercer des contrôles sur l'ensemble du programme iranien. Pourquoi ? Pour l'essentiel, parce que l'agence demande à aller visiter des sites militaires et très honnêtement, je pense que les négociateurs n'ont pas le pouvoir d'imposer aux militaires iraniens et notamment à ces fameux Pasdaran, qui est cette armée d'élite au sein du système, d'ouvrir les portes aux inspecteurs de l'agence.
Votre métier, c'est d'être diplomate, ça l'a été sur place, François Nicoulot. Comment on sort de ce genre d'impasse ?
En faisant des sacrifices, en faisant des compromis, c'est ce qu'il y a de plus difficile en ce moment parce que des deux côtés, hein, il y a d'un côté, il y a le Majlis, c'est-à-dire le Parlement iranien, de l'autre côté, il y a le Congrès américain qui sont sur des lignes extrêmement dures et qui sont prêts à fusiller les négociateurs s'ils ont l'impression que ceux-ci ont cédé. Et les négociateurs sont vraiment un petit peu coincés. Il faut arriver à des compromis, mais à l'heure actuelle, précisément, le fossé est encore très large et peu près infranchissable sur un ou deux points clés de la négociation.
Alors, rappelons encore une fois ces points clés. Vous dites qu'il y en a un ou deux qui coincent, lesquels donc ?
On va dire qu'il y en a vraiment un. Le dernier qui coincera, c'est le nombre de centrifugeuses que l'Iran sera autorisé à utiliser, à faire fonctionner pendant une assez longue période.
Parce que plus on en a, plus on peut se doter de l'arme nucléaire rapidement. Hein.
C'est bien ça. Plus on a de centrifugeuses, plus vite on arrive à accumuler le montant d'uranium hautement enrichi qui permet ensuite de fabriquer une bombe. Et les Occidentaux disent, à l'heure actuelle, vous les Iraniens, avec ce que vous avez, vous pouvez en quelques semaines fabriquer assez d'uranium hautement enrichi pour au moins obtenir une première bombe.
Et on aimerait, disent-ils encore, arrêtez-moi si je me trompe, que vous réduisiez le nombre de centrifugeuses afin que la fabrication d'une bombe soit beaucoup plus longue en temps et que l'on puisse l'observer, parce que j'imagine qu'il y a des satellites qui regardent très précisément ce qui se passe.
Tout à fait, c'est tout à fait cela. Mais pour les Iraniens, il y a un aspect symbolique. Et d'ailleurs, le guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei, a fixé des lignes rouges aux négociateurs. Il leur a dit... Il y a des points clés, vous ne devez pas démanteler ce qui a déjà été obtenu. L'Iran a fait d'énormes efforts pour arriver au point où il en est, tout seul, un peu en autarcie comme cela. Et l'idée de démanteler, il y a à peu près 9000 centrifugeuses qui tournent en ce moment, d'en démanteler la plus grande partie, comme l'exigent les Occidentaux, c'est quelque chose que les Iraniens vivraient, le régime en tout cas, vivraient comme une humiliation, inacceptable.
François Nicolau, vous venez de faire une précision qui est très intéressante, que les Iraniens vivraient, le régime en tout cas, avez-vous dit. Est-ce que vous pensez, vous qui avez vécu sur place, qu'il y a disjonction entre cet appareil assez complexe du pouvoir iranien et le peuple? Est-ce que le peuple est mobilisé par nationalisme derrière ces centrifugeuses nucléaires?
D'une certaine façon, quand même, oui. Il y a, assez curieusement, il y a des sondages qui sont faits dans la population iranienne
et qui sont assez fiables,
d'ailleurs, qui sont patronnés, assez curieusement, par des universités américaines. Il y en a un qui vient de sortir, où une université iranienne s'est associée à une université américaine. Et on s'aperçoit, en réalité, que la population iranienne soutient un peu la ligne officielle du régime de ne pas céder aux Occidentaux. Il faut bien voir que les Iraniens, au fond, à l'égard de cette révolution islamique dont ils perçoivent les erreurs, même les crimes qui étaient commis, notamment dans la période initiale, ça a été aussi pour les Iraniens le signal de l'accession à la pleine indépendance. À l'époque du Shah, c'était pas la pleine indépendance. Il y avait l'impression d'être un pays soumis aux puissances coloniales, etc.
Et le nucléaire est un élément de cette souveraineté retrouvée.
Voilà, c'est devenu un élément symbolique et ça complique énormément le jeu parce que, en effet, il y a des éléments irrationnels qui interviennent dans la négociation.
Alors, dans ce jeu compliqué, il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, sauf erreur, c'est celui d'Hassan Rouhani, le président iranien. Il a été élu l'an dernier. Il a envoyé un certain nombre de signes laissant penser qu'une nouvelle période allait peut-être s'ouvrir entre l'Iran et le reste du monde. Bonsoir, Shiavaz Ghazi.
Bonsoir.
Vous m'entendez bien? Qu'en est-il exactement de cet espoir de détente qu'on a pu caresser dans un premier temps?
Écoutez, donc depuis un an, comme vous l'avez dit, le président Rouhani a fait tout ce qui est possible dans le cadre de ses pouvoirs pour améliorer les relations entre l'Iran et le monde occidental, en fait.
Ah, on vous a perdu, Shiavaz Ghazi. C'est la ligne téléphonique qui n'est pas très bonne avec Téhéran où vous vous trouvez. On va essayer d'en établir une meilleure et donc de vous retrouver dans quelques instants.
Mais je vois à peu près ce que qu'a en tête mon bon ami.
Alors dites-nous, finissez sa phrase.
Shiavaz Ghazi, c'est que le président Rouhani, il a un peu tout misé sur le succès de la négociation parce qu'il a promis aux Iraniens la prospérité, mais pour la prospérité, il faut sortir des sanctions. Pour la sortie des sanctions, il faut effectivement que la négociation aboutisse. Donc il est un peu pris à la gorge, le président Rouhani.
L'horlogerie du pouvoir iranien, les différents centres, les différentes légitimités, les différentes personnalités qui parfois ne convergent pas, est-ce que ça pétrifie la négociation ou au contraire ça laisse des espaces aux différents acteurs?
Ça l'a pétrifié en certaines périodes, effectivement, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que Rouhani et son équipe de négociateurs ont un mandat très clair du guide. Le guide, tout en les critiquant pour bien marquer que c'est lui quand même le guide et que c'est lui qui prend les décisions finales, les soutient. Et les soutient contre les conservateurs, les plus conservateurs du régime qui sont pour une économie de résistance, qui sont pour la fermeture de la négociation. Donc, en fait, la diplomatie iranienne fonctionne assez bien et même fort bien en ce moment. C'est elle qui, dans toute cette affaire, a eu plutôt l'initiative.
Hein. C'est une belle diplomatie. Je vous demande un jugement esthète aux diplomates que vous êtes. Écoutez, vos homologues, vous les trouviez comment ?
Il y en avait beaucoup qui avaient ce qu'on appelle la classe internationale. Hein. Ils étaient ministres ou directeurs au ministère des Affaires étrangères.
Je savais pas que la classe internationale, c'était un concept diplomatique au Quai d'Orsay. Hein.
Ils sont ministres des Affaires étrangères iraniens, mais ils pourraient être ministres des Affaires étrangères de n'importe quel grand pays au monde. Il n'y a pas de problème. C'est des gens qui évoluent à un niveau tout à fait élevé. C'est des interlocuteurs tout à fait respectables et de très bonne qualité.
Alors, mettons un élément supplémentaire très important dans ce débat, François Nicolau. Est-ce que la menace des djihadistes de l'organisation EI, remet l'Iran au cœur du jeu régional. Dès lors qu'une coalition est en train de se monter, dès lors que ces djihadistes-là sont les ennemis déclarés d'un pays comme l'Iran, est-ce que est-ce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça rend quand même l'Iran tout à fait nécessaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont prêts à faire le sale boulot, boulot sur le terrain. Hein, les Américains l'ont bien dit, c'est à partir de l'air qu'on va intervenir.
Et François Hollande l'a confirmé
pas
dans sa conférence de presse.
Des bottes sur le sol, selon l'expression américaine. Les Français prennent la même attitude, n'importe quel pays européen prend la même attitude, et les pays du Golfe, dont on pourrait imaginer qu'ils interviennent, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ne prendront pas le risque de mettre en première ligne des troupes. À l'heure actuelle, il n'y a finalement qu'un seul pays qui est capable de monter en première ligne, et qui l'a montré en une ou deux occasions déjà, pour contrer les djihadistes de l'État islamique, entre guillemets, c'est l'Iran. Et donc l'Iran va jouer manifestement un rôle crucial pour le dénouement de cette crise.
Quelle forme pourrait prendre ce rôle ?
Et c'est un double rôle, à vrai dire. C'est un rôle militaire, et en intervenant vraiment sur le terrain avec des troupes. On l'a vu récemment pour la libération d'une ville assez proche de la frontière iranienne, où on a vu des troupes iraniennes au sol qui ont été photographiées. C'est la première fois qu'on voyait cela. Et aussi d'un point de vue politique, parce que les Iraniens ont pris conscience des erreurs du précédent gouvernement irakien qui s'était replié sur lui-même, sur la communauté chiite. Ils ont compris que maintenant, il fallait un gouvernement d'union nationale, et ils jouent ce jeu. Ils sont prêts à soutenir Abadi, le nouveau Premier ministre, dans la mesure où, effectivement, Abadi joue le jeu de la réconciliation entre sunnites, chiites et kurdes. Ça, c'est vraiment le point clé.
Une dernière question. Est-ce qu'il faut, d'après vous, s'attendre éventuellement à ce que les lignes bougent au cours de cette opération militaire en Irak, ou se résoudre au contraire à voir la question du nucléaire iranien jamais vraiment réglée de manière satisfaisante ? Est-ce qu'il peut y avoir un statu quo filandreux de cette manière ?
Non, je pense que là, vraiment, ça serait quand même très compliqué, parce que si on reste dans l'ambiguïté, effectivement, chacun reprendra ses libertés. Ça ne pourra qu'aggraver la tension qui existe entre l'Iran et le monde extérieur. En revanche, une solution de la crise, mais qui est difficile à atteindre, une solution de la crise devrait apporter manifestement une détente dans la région. Hein. Il y aura des effets positifs, concentriques, en quelque sorte, comme une onde positive qui jouera sur beaucoup d'autres dossiers.
Merci beaucoup, François Nicolau, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Téhéran. Merci, excellence, comme on dit au Quai d'Orsay. Ça vous rappelle de bons souvenirs. Hein.
Il est 18. Bon et moins bon.
Oh, et bon et moins bon. Voilà. Merci pour votre franchise. Hein. Vous avez vu, on se détend quand on a quitté la carrière. Il est 18h30 et on écoute Baxter Dury, Palm Trees. À suivre l'Écosse. L'Écosse qui vote aujourd'hui sur son avenir. C'est un riche jour dans le monde. There's a shopping centre where your heart belongs. Palm trees and cocktails in the sun. Ships and glimpses, something very special. Like that, she comes home. There is you and me right now, standing underneath these trees right now.
angel like that. She comes home. Does she think she's special? Very, very special. She thinks she's special, very, very special. So I follow this lonely trail of tears where these artificial trees appear. She'll see glimpses of something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special.
Sitting on palm trees.
Does she think she's special? Very, very special.
Jerry, Jerry, vous nous le prononcez...
C'est Baxter Jury.
Voilà, Baxter
ouais.
Jury, vous le ouais. prononcez vraiment beaucoup mieux que moi, mon cher Jerry, l'Écosse.
You say yes.
Yes.
I say no.
No.
You say stop. And I say go, go, go.
We want you to stay.
You say goodbye.
Yes.
And I say hello.
We want you to stay.
No. I don't know why you say goodbye. I say hello.
No, no, no.
L'Écosse aux urnes, 18h33 sur France Inter. You say yes, yes, pardon, I say no, goodbye ou hello pour reprendre les Beatles. Rebonsoir donc, Jerry Fili.
Bonsoir.
Courrier international, vous êtes responsable du service Europe et avec nous en ligne depuis Édimbourg, Franck Matvon. Bonsoir, Franck.
Bonsoir Nicolas, heureux de vous retrouver.
Moi aussi, on a eu comment dire, le plaisir rapide hier soir. Vous êtes le correspondant de Radio France à Londres. Alors dites-nous Franck, cette journée de vote, il y avait du monde dans les urnes ?
Oui, beaucoup de monde au bureau de vote aujourd'hui. Dès ce matin, très tôt, on a vu les Écossais affluer dans les quelques 2700 lieux réquisitionnés pour ce référendum. Il faut savoir que 97% des électeurs potentiels se sont inscrits. C'est colossal, du jamais vu dans la province. Plus de 4 millions de personnes sont appelées à voter aujourd'hui. Parmi elles, 110 000 jeunes de 16-17 ans. L'âge du vote a été abaissé exceptionnellement, vous le savez, à 16 ans pour ce référendum. C'était un souhait du gouvernement écossais qui tablait sur le fait que les plus jeunes pencheraient pour le oui. Alors ça reste à prouver, les sondages se contredisent. Alors devant les bureaux, presque systématiquement, vous trouvez des militants du oui et du non qui font acte de présence et qui espèrent, qui sait, convaincre quelques indécis de dernière minute. J'ai rencontré Gary Gardner, un militant du yes à Sight Hill, un quartier plutôt de classe ouvrière de l'ouest d'Édimbourg, un lieu où le oui devrait obtenir un très bon résultat.
It's been exceptional.
La participation a été exceptionnelle.
I've voted here for the last, four years.
Ça fait 4 ans que je vote ici et je n'ai jamais vu autant de monde si tôt.
It just seems like
c'était vraiment
what's going on.
Qu'est-ce qui se passe? Comme si les gens exerçaient enfin leurs droits,
exercising their right,
et réalisaient qu'ils avaient un pouvoir,
they have
une voix.
You know, they have a voice.
Ça, c'était devant les bureaux de vote. Donc, Franck, quelle était l'atmosphère de la journée ? Je vais vous le dire simplement. Est-ce que les gens que vous avez pu croiser ont le sentiment de vivre un moment d'histoire ou même de faire l'histoire ?
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils ont vraiment le sentiment d'écrire l'histoire du Royaume-Uni. Et les deux camps, d'ailleurs, sont très conscients de cela. On l'a vu pendant la campagne qui a duré presque 2 ans. Les habitants de la province se sont passionnés pour le débat. Les opinions sont souvent très tranchées. Il y a eu beaucoup de porte-à-porte, de réunions de campagne, de prospectus. Les militants ont aussi été très actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, ce référendum écossais a d'abord été un très bel exemple de démocratie. Alors c'est vrai, le camp du oui a sans doute montré plus d'enthousiasme, plus de passion, mais on trouve aussi de fervents unionistes. Brian Lang, par exemple, croisé ce matin à la sortie d'un bureau de vote du centre-ville d'Édimbourg. On
l'écoute. Ça a tout changé. Je trouve que l'Écosse est politisée comme jamais. Comme vous avez pu le voir depuis la semaine dernière, et même depuis un an, l'atmosphère en Écosse est fébrile. Tout le monde parle de ce que l'Écosse signifie, de ce que le Royaume-Uni signifie. Personne dans ma génération, d'une manière générale, dans une vie, ne pourra voir une telle atmosphère encore.
Et quel est votre vote ?
J'ai voté non, je suis un Écossais patriote. Je crois en une Écosse prospère et forte, où on est fort et prospère parce qu'on est membre du Royaume-Uni. Qui va dormir cette nuit dans l'attente des résultats du vote ? On sera tous en état d'alerte, soit inquiets, soit plein d'espoir. Dans chaque camp, on est tous remplis d'attente.
Et nous aussi, on est remplis d'attente, Jerry. Quel que soit le résultat, le Royaume-Uni, de toute façon, ne va pas sortir intact de ce référendum.
Absolument, parce qu'on a vu là, depuis une semaine, Londres a sorti l'artillerie lourde. On a vu les leaders du parti de Londres en train de promettre en fait, aux Écossais la dévolution max, c'est-à-dire une espèce de modèle fédéraliste pour le Royaume-Uni. Donc même si c'est le nom, l'Écosse et le Royaume-Uni ne seront jamais le même. Voilà, on a aussi vu une campagne extrêmement un peu de plus en plus agressive. On a vu quasiment la totalité de l'establishment britannique qui sort les grosses armes pour dire, par exemple, les banques qui disent qu'on va traverser la frontière si l'Écosse vote oui. On a vu les sociétés de téléphonie mobile en train de dire que l'Écosse est trop montagneuse. Maintenir les réseaux tels quels, il va falloir payer plus d'argent. On a même vu Deutsche Bank à Francfort en train de dire que si l'Écosse devient indépendante, eh ben, ça serait une espèce de catastrophe économique. Donc là,
Cette pression, elle a été ressentie comment de la part des Écossais ?
On a vu quand même les sondages. Peut-être ça va étonner les Français de savoir qu'il y a même des sondages aujourd'hui qui donnent, par exemple, le non-gagnant à 53% contre 47% pour le oui. On voit dans les sondages, il y a une espèce de fébrilité dans l'air, mais on a vu quand même tout au long de cette campagne que les sondages sont extrêmement volatiles. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez indomptable dans l'esprit celte des Écossais qui vont un peu résister à cette espèce de pression assez négative.
Franck, quels sont les derniers échos de Londres ? Je rappelle que vous êtes basé à Londres comme correspondant de Radio France, que là, vous êtes avec nous en direct d'Édimbourg, mais vous avez, j'imagine, les oreilles ouvertes. C'est l'inquiétude maximale dans la capitale.
Oui, c'est certain, c'est l'inquiétude maximale. D'ailleurs, il suffit d'avoir un œil sur les marchés. Vous savez, aujourd'hui, la livre sterling a bondi face au dollar. Manifestement, on spécule sur la victoire du non, sans doute à raison, car le oui, c'est clair, est l'outsider de ce référendum d'après les derniers sondages. Mais on parlait à l'instant de l'establishment et de cette mobilisation de l'establishment anglais pour l'Union, pour sauvegarder le Royaume-Uni. Et c'est quelque chose qui, en effet, a beaucoup agacé les unionistes, les indépendantistes, ces Écossais indépendantistes, et même d'ailleurs quelques électeurs du non, n'aiment pas Londres, n'aiment pas le système de Westminster. Je vous propose d'écouter à ce propos John Garrow. Il est infirmier, jeune retraité, et pour toutes ces raisons-là, il a voté aujourd'hui les larmes aux yeux.
On attend ça depuis très longtemps. Personnellement, je suis écœuré du gouvernement anglais. On a été mal gouvernés, maltraités. C'est le jour de la décision pour l'Écosse. Un nouveau départ, peut-être. On payera si on perd. On payera. On souffrira pour s'être levé, pour avoir fait ça. On le sait. On devra en payer le prix. Donc le oui doit gagner. C'est plus qu'une question de fierté ou d'émotion. C'est juste le résultat de longues années de mauvais traitements. Ils tirent toujours les ficelles.
Ah, le témoignage est d'une force incroyable. Merci beaucoup, Franck Madvon, d'avoir été avec nous ce soir en direct depuis Édimbourg. Comment vous le recevez, Jerry, ce témoignage ? Les larmes aux yeux, nous disait Franck.
Ah, absolument. Je crois qu'il y a toujours eu une perception en Écosse, peut-être pour la moitié de la population, ne serait-ce que plus de gens, que l'Écosse a toujours été un pays un peu seconde zone au sein du Royaume-Uni. Les Écossais ont beaucoup souffert pendant les années 70 et les années 80, la déindustrialisation du pays. L'Écosse, il faut dire, pendant tout le long du 19e et 20e siècle, a été le moteur de la révolution industrielle et l'économie britannique. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions et pour le oui et pour le non. Mais j'ai été quand même assez interpellé par un tweet de Irvin Welsh. Vous connaissez, c'est l'auteur de Trainspotting, qui est devenu le très célèbre film de Danny Boyle, qui a dit, bon, si quelqu'un vous pose la question, voulez-vous être indépendant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites non. Voilà, je pense que c'est, pour moi, ça m'a donné... Je trouvais ça assez
amusant. C'est vrai que c'est
d'une
simplicité biblique, posée comme ça.
Absolument.
Et on a l'impression, à entendre les témoignages recueillis par Franck Madvon sur place, que oui, la question aussi est reçu comme ça, c'est-à-dire très personnellement, est-ce que vous voulez, vous, être indépendant ?
Absolument, et j'ai été quand même assez intéressé par le point de vue, l'idée que les unionistes aussi s'interrogent beaucoup sur cette question, parce que quand on voit la manière paniquée avec laquelle les Anglais, les partis politiques britanniques ont dit aux Écossais, voilà, ne nous quittez pas, on va vous donner tout ce que vous voulez, je pense que ça ne peut que attiser en fait le sentiment nationaliste, la fierté écossaise.
C'est un sentiment inquiétant. On a toujours tendance à dire dans la vieille Europe que le nationalisme c'est le mal, ou en tout cas c'est l'un des vecteurs du mal. Est-ce que le réveil de ce sentiment nationaliste là vous inquiète, vous, ou pas?
C'est très difficile à dire. On voit qu'il y a toutes sortes de nationalisme en Europe. Et effectivement, bien sûr, à Bruxelles, on est en train de regarder ce référendum avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on pense que ça va mener vers la balkanisation d'Europe. Et déjà, on a entendu hier soir Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, qui a dit si les Écossais votent pour le oui, alors ils vont attendre 8 ans avant de pouvoir accéder à l'Union. Donc, je pense que ça inquiète énormément les Européennes, mais est-ce qu'il y a un réel danger de nationalisme écossais? Ça, je ne suis pas sûr.
Merci en tout cas, Jerry Fihili, d'avoir été cette semaine encore, comme promis, au micro de France Inter. Je rappelle que vous êtes le responsable du service Europe de Courrier International. Grand merci encore à Franck Madvon, le correspondant de Radio France à Londres, qui était avec nous en direct d'Édimbourg. 18h44, un jour dans le monde continue. Thanks so much for that report. Avec Partout ailleurs. Bonsoir Eric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Vous nous emmenez ce soir en Tunisie.
Sur l'île de Djerba, l'image sans l'odeur. L'image parce qu'un petit village a été transformé en capitale mondiale du tag. Et pourtant, l'île de Djerba est secouée par une véritable crise de déchets, comme l'avait connu Naples. C'est-à-dire que c'est le même problème. Des poubelles et des détritus partout, plus de place dans les décharges. Et les habitants qui ont manifesté samedi soir dernier en brûlant leurs poubelles et en bloquant les accès à la petite capitale de l'île, Oumt Souk. Et en parallèle, à côté de ça, dans un tout petit village qui est de l'autre côté, au centre de l'île, au Sable d'Or, Her Riyad, commune donc de l'île de Djerba, méconnue, sinistrée elle également au lendemain de la Révolution, parce que l'activité touristique s'est effondrée, eh bien, un Tunisien a eu l'idée de faire de ce village la capitale mondiale du tag. C'est-à-dire qu'il a fait venir du monde entier les 100 meilleurs graffeurs qui existent, 30 nationalités différentes. Ils se sont mis autour de la table avec le maire, avec les habitants du village, parce qu'évidemment, il y avait des résistances. On sait ce que c'est le tag en général, c'est quelque chose d'assez grossier, une forme illégale, la possession d'un mur. Donc les habitants étaient assez réfractaires à cette idée-là. Donc c'est vrai que c'était une sorte de mélange, on peut l'illustrer avec la musique d'ailleurs, mélange de tradition arabe, où d'un seul coup, il fallait non pas se débarrasser de cet habit, mais de le communier avec une forme nouvelle qu'on appelait donc le street art et qui allait arriver dans les rues.
C'est un village juif où il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens, tout le monde vit ensemble depuis des siècles. me suis dit que c'était déjà voilà, une matière qui était lourde de sens, plus par rapport à notre actualité, une belle petite leçon. À la base, ce village s'appelle Haras Rira, ça veut dire que le petit quartier. Son nom administratif aujourd'hui, c'est Riyad, ça veut dire le quartier en arabe littéraire. Et donc nous, on a juste rajouté Oud en anglais, c'est-à-dire histoire que tout le monde comprenne. Donc c'est Djerba Oud, Djerba le quartier, quoi.
Et ici, quel a été l'accueil alors à Djerba Oud ?
Bah, au départ, ils étaient interloqués, quoi. Ils comprenaient pas trop ce qu'on venait faire. Le maire m'a dit bon bah ok, d'accord, t'as le droit d'intervenir. Mais fais gaffe à ce que tu fais. Donc voilà, à chaque intervention, j'avais comme un petit comité là qui venait surveiller. Mais très vite, ils étaient rassurés en voyant la qualité des travaux. De toute façon, on n'était pas là. Ils avaient peur que ça soit du gros lettrage, que ça soit une quête de territoire. Enfin, comme, mais pas du tout. Là, c'était figuratif. Ça rassurait aussi beaucoup de gens. Et
comme le font les taggeurs en général, c'est une prise de possession souvent illégale.
Il y a une idée globale, il y a une scénographie. On donne pas le mur comme ça, n'importe comment. On décerne chaque mur à chaque artiste avant qu'il intervienne. Et on a des autorisations pour chaque mur. C'est-à-dire que chaque habitant veut bien nous donner ou pas son mur.
Les espoirs d'économie aussi, on sait à quel point le tourisme est ravagé, notamment à Djerba aussi. L'idée qu'une capitale mondiale du street art puisse naître peut être aussi un élan pour l'économie touristique.
Ça s'est fait automatiquement tout seul en fait. Ce qui me fait plaisir en fait, c'est pas un groupe hôtelier, c'est pas quelqu'un qui possède ça, c'est la population du village qui possède ce musée. Ils en font vraiment, vraiment ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gamins se transformaient en guides. Donc ils m'ont demandé des t-shirts Djerba Oud pour que ça fasse plus sérieux. C'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, les commerces du coup fonctionnent mieux. Mais c'est un village, c'est assez spécial parce qu'on est là, on entre, on ne connaît pas. C'est super mignon comme village déjà à la base. C'est une architecture vraiment typiquement djerbienne, c'est-à-dire orientale, méditerranéenne et ancestrale à la fois. Et c'est ça qui a donné aussi une force à tout le travail qu'on a fait sur place. C'est le mélange entre cette architecture et un art aussi contemporain que le street art.
Ouais, le projet est beau, il en parle magnifiquement bien, mais il est quand même microscopique, Eric, dans un pays qui est en crise profonde.
Oui, on l'a vu, l'île de Djerba, déjà, c'est la crise des déchets, mais c'est aussi un pays qui a des institutions fragiles. On va voter le 26 octobre pour les législatives. Il y aura ensuite l'élection du président de la République. Mais il y a un vide politique énorme, et cette crise des déchets traduit cela, en fait. Alors, évidemment, c'est sûr que d'un côté, on voit la population, et Mehdi Benchir le disait très bien, des graffeurs sont venus du monde entier pendant... Tout l'été, ils ont posé les bombes, les pinceaux et ont refait les façades. Maintenant, ça appartient aux habitants. Et c'est aux habitants, justement, de se saisir de ça. Mais ça illustre bien, finalement, la situation de la Tunisie d'aujourd'hui, parce que c'est aux habitants de s'approprier le vide politique et constitutionnel. Mais ils le font avec peu de moyens, puisqu'il y a la crise économique. Et c'est le terreau, alors, du terrorisme. Le terrorisme qui revient très fort dans le sud et dans l'est du pays, puisque là, les infrastructures sont évidemment déficientes. Et qu'il ne faut pas oublier que le sud et l'est du pays, c'est la frontière avec la Libye. La Libye qui est en plein chaos également. Pour toutes ces raisons, donc, la Tunisie vit en ce moment des heures sombres. Et c'est vrai que c'est une note d'espoir. C'est vrai que c'est sympa d'entendre des projets comme celui-là. C'est vrai que Mehdi Benchir l'a mené à bien, a donné de l'espoir à toute une population locale, mais qu'à l'échelle nationale, le travail reste immense. D'autant que si on doit parler de culture d'un mot, blogueurs, rappeurs, musiciens connaissent une répression terrible et la liberté d'expression, ce n'est pas encore ça en Tunisie.
Éric Valmire, merci. À suivre dans quelques petites minutes l'édito d'Alain Frachon. Pourquoi le nationalisme se porte-t-il si bien aujourd'hui? Juste avant, Dominique André. Thank you.
Jazia Satour, Clamy, il est 18h52, Dominique André, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
La fabrique du Nouveau Monde ce soir avec une pionnière qui pédale à fond pour changer les choses.
Et oui, c'est Georgie Delaney, c'est une jeune Anglaise sportive bien sûr, qui pédale à fond et qui est inventive et qui se pose plein de questions et une grande question, mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette énergie que nous, les femmes et les hommes, on dépense chaque jour et parfois bêtement. Alors, quand elle est sortie de son école de design industriel à Londres, elle a eu une idée. Elle a créé des machines de fitness qui transforment donc l'énergie pour recharger les batteries. Par exemple, vous pédalez et vous rechargez votre téléphone portable, votre tablette ou votre lampe électrique. Une ou deux minutes de sport, c'est 1% de la batterie du téléphone rempli. Alors, elle a lancé ces machines il y a 4 ans. Et les Anglais ont adoré. Donc, il y en a dans les écoles, il y en a dans les hôpitaux et dans les grands parcs britanniques. Il y a 500 machines de fitness de Georgie Delaney qui sont installées maintenant en Grande-Bretagne, en accès libre et gratuit.
L'idée, c'est de recycler l'énergie produite par les humains en leur offrant la possibilité de faire du sport gratuitement. Notre philosophie, c'est que le monde de l'entreprise devrait se mobiliser pour sauver la planète et devrait donner les moyens nécessaires aux populations pour qu'elles fassent aussi un geste. Nous plantons des arbres dans toutes les aires de sport. L'énergie qui est produite grâce aux installations sportives est transformée pour recharger les batteries des appareils électroniques, comme les téléphones portables ou les lampes, ou stockées pour plus tard. Chaque personne génère de l'énergie par différents moyens, en fonction de sa condition physique. En moyenne, chaque personne produit 50 watts d'électricité en faisant à peu près une heure de sport. L'énergie est stockée dans des batteries et notre système la transforme. Vous obtenez 2 heures d'autonomie énergétique avec une heure de sport. Tous les appareils sont conçus pour toute la famille. Il n'y a pas d'âge pour les utiliser. Les machines servent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il y a toutes sortes d'équipements pour chaque personne.
Et on va pouvoir pédaler ce week-end à Paris, Dominique.
Ouais, je ne sais pas si vous préférez pédaler ou faire des steps, Nicolas.
Pédaler, a priori. Les steps, c'est vraiment violent.
Alors, on peut essayer les machines tout le week-end sur les berges de la Seine à Paris. Donc, il suffit de descendre à la station de métro Musée d'Orsay ou Assemblée nationale. Et là, Georgie attend avec ses machines de fitness et c'est ouvert au public. Et voilà, c'est libre et gratuit.
Et un téléphone portable vide. Oui. Merci, Dominique André. 18h55.
Le Hamas, quel est le point le plus chaud islamique en Syrie.
On file à Tokyo.
Bonsoir Nicolas.
Bref, de la diplomatie super macho.
L'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Éditorialiste au quotidien Le Monde, on parlait de l'Écosse tout à l'heure, mais elle n'est pas la seule. On assiste bien, Alain, au retour en force du nationalisme.
Voilà, on peut dire que dans le cas de l'Écosse, c'est l'expression extrêmement civilisée, peut-être, d'une volonté nationaliste. Il y a toujours beaucoup de causes à la revendication indépendantiste, mais enfin, disons les choses comme elles sont. Il s'agit d'affirmer, plus encore, voire d'exalter une identité collective qu'on appelle la nation. Non, ce n'est pas spécifique aux Écossais. Prenez l'Union européenne, par exemple. À chaque scrutin, comme vient de le dire le président Hollande, on sonne le tocsin, parce qu'à chaque scrutin, quel que soit la situation du chômage ou de l'immigration, les partis protestataires d'extrême droite mettent la valeur nationale en avant et progressent la semaine dernière en Suède. Pourquoi en Suède ? Moins de 6% de taux de chômage. On a doublé, les protestataires d'extrême droite ont doublé leur score avec 12,5%. Mais regardez, que dit le président Xi Jinping à Pékin ? Il chante la gloire de la grande Chine. Le nationalisme a remplacé les grands mythes d'identité collective qu'il pouvait y avoir avant en Chine. Que dit Poutine ? Alors là, on est à plein dans une expression grand nationaliste russe. Que dit le Premier ministre indien à New Delhi ? Son parti est l'expression du nationalisme hindou. Il est au pouvoir aujourd'hui, pour ne pas parler du japonais Shinzo Abe, qui lui aussi oppose au nationalisme chinois le nationalisme japonais.
Et pourquoi maintenant, Alain ?
Alors, pourquoi maintenant ? Écoutez, ici, je vais risquer une piste. À vrai dire, je vole mon idée, cette idée, parce que je la trouve très intéressante aux meilleurs auteurs. Je la vole, par exemple, au professeur d'histoire du libéralisme, qui est Pierre Manant, ou bien à Jean-Marie Guénaud, qui est un grand fonctionnaire international. Que disent-ils ? Ils disent que le nationalisme accompagne la mondialisation économique, qu'elle est devenue, d'une certaine manière, le mouvement politique qui monte à mesure que s'installe la mondialisation économique. Je vais vous citer Guénaud. Peu importe que la mondialisation soit bénéfique pour des millions de Chinois et perçue comme une menace pour ceux qui ne savent pas s'y adapter. Le point commun des vainqueurs, comme des vaincus de la mondialisation, est de se chercher une identité collective. Ça peut prendre la forme de la tribu, ça peut être une solidarité religieuse. Le plus souvent, c'est l'exaltation de la nation.
Merci Alain Frachon. Un mot, puisque vous êtes là pour vous dire, amis auditeurs, qu'à l'occasion, des 70 ans de votre journal, le quotidien Le Monde, Alain, France Inter sera demain toute la journée au 80 boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e arrondissement de Paris, c'est-à-dire dans les locaux du quotidien Le Monde. Toutes les émissions se feront en direct et en public. Le 7-9 de Patrick Cohen, la marche de l'histoire de Jean Le de 13h30 à 14h. Si tu écoutes, j'annule tout également de 17h à 18h. Et j'aurai le plaisir également de vous retrouver de 18h15 à 19h pour Un jour dans le monde. On sera avec vous, Alain Frachon, avec Arnaud Le Parmentier, qu'on entend aussi souvent à ce micro, avec Christophe Ayad, qui dirige le service étranger du quotidien Le Monde, et avec un ancien camarade à vous qu'on connaît bien sur France Inter, Bernard Guetta, qu'on entend tous les jours ici à 8h17, très précise, et qui fut l'une des très grandes plumes du quotidien Le Monde. La soirée se terminera à 21h-23h, une émission spéciale que j'aurai le plaisir de co-animer avec Rebecca Manzoni. Voilà pour le programme des festivités. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Dans 20 minutes, le téléphone sonne. Sur quoi ce soir ?
La conférence de presse de François Hollande, qui est toujours en cours actuellement à l'Élysée. Elle a commencé
c'est
à
le marathon,
17h10, donc ça fait 1h50 de conférence de presse. On a déjà quelques messages forts du président de la République, et notamment j'y suis, j'y reste, je serai un président jusqu'au bout. Vous avez écouté le président de la République, vous êtes en train de le regarder, on attend vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter,
hashtag Telson.
Merci Nicolas.
Merci Hélène, rendez-vous dans 20 minutes.